le speed dating de l'immobilier. Organisé par Arkéa Banque, entreprise et institutionnelle, vendredi 3 septembre 2021, en direct sur Radio Imo. Sur Radio Imo.
Rebonjour à toutes et à tous, voilà l'heure du déjeuner. Alors déjà c'est beaucoup plus calme, il y a beaucoup moins de bruit puisque les personnes sont en train de déjeuner. Toujours aussi beau ici à Maison de la Chimie, rue Saint-Dominique à Paris. Magnifique ouvrage, 8e édition des speed dating d'Arkéa. Carton plein puisque bien évidemment tout le monde n'a eu qu'une envie, c'est de se retrouver enfin, parce que les visios ça va bien, mais à un moment donné on a envie aussi de se retrouver. On se touchera peut-être plus tard,
on entendra un petit peu.
En tout cas ça nous fait du bien. Voilà, on fait un tour d'horizon, hein, des promoteurs, des maires de ville. On a eu le maire de Saint-Germain-en-Laye, la maire d'Amiens, des aménageurs, des promoteurs et des banquiers. On va prendre aujourd'hui le patron d'une société d'économie mixte, INSEM, incité-bordeaux.fr. Son directeur général est sur le plateau, Benoît Gandin.
Bonjour.
Comment ça va, Benoît ?
Très bien.
Comment ça s'est passé ce matin pour vous ?
Ce matin, c'était assez intéressant parce qu'effectivement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de développement durable, de la ville résiliente, de la ville qui se construit sur elle-même, de l'écoute des habitants, etc. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'on parlait, non pas d'incité, mais de ce que l'on fait, nous, depuis 20 ans sur Bordeaux, à travers les opérations de renouvellement urbain du centre-ville. On ne fait que retravailler la ville sur la ville, dans l'ancien, effectivement, une ville de pierre magnifique, hein, Bordeaux extraordinaire.
Patrimoine exceptionnel.
Patrimoine UNESCO exceptionnel. Et un travail depuis 20 ans aussi exceptionnel sur cette, je veux dire, cette ville résiliente, avec ce souci effectivement de conserver, mais également de transmettre ce patrimoine, parce qu'effectivement on pourrait penser que travailler une ville sur elle-même avec cette richesse patrimoniale, c'est on conserve, on fige un petit peu les sujets, et en fait depuis 20 ans on ne parle que de transmission de ce patrimoine. Comment ce patrimoine remarquable bordelais peut aujourd'hui s'adapter aux contraintes de vie des habitants? On parlait tout à l'heure de balcons, de terrasses, on parlait de visibilité, on parlait d'éclairement, on parlait de confort,
d'espace, voilà. Qui est devenu un luxe.
Exactement.
C'est-à-dire que cette pandémie a remis en perspective des choses évidentes, de l'air, ouais. De l'air, de l'espace et du verre.
Et du verre.
Et quand on voit aujourd'hui parfois les non-sens urbains dans lesquels les politiques publiques parfois se sont enfermées, on voit bien que le rappel de quelque chose de naturel à la fois a été violent, mais en même temps presque salutaire. Est-ce que ce qui s'est passé, Benoît Gandin, et de nature à changer votre braquet, finalement, dans la vision de l'aménagement ou de l'aménageur que vous êtes?
Peut-être de l'accélérer. Quand je dis peut-être de l'accélérer, parce qu'effectivement, le travail d'incité à travers les concessions d'aménagement que nous a confiées la ville de Bordeaux d'abord et la métropole aujourd'hui, visait ses objectifs, déjà il y a 20 ans. À l'époque, c'était Alain Juppé, aujourd'hui, c'est Pierre Urmic. C'était de dire, vous dédensifiez. C'est-à-dire qu'effectivement, ces immeubles anciens de Bordeaux, pendant des années et des années, se sont divisés. On a effectivement pas mal spéculé en faisant du petit logement.
On peut vraiment dédensifier ?
Ah ben bien sûr. Bien sûr, après ça a un coût. Ça a un coût énorme pour les collectivités, d'une part. Mais aujourd'hui, les projets que nous menons, c'est justement de restructurer ces immeubles, de restructurer ces îlots, éventuellement de venir redémolir les cœurs d'îlots pour retrouver des îlots de fraîcheur, des jardins partagés. Enfin, tout ce qu'on a évoqué ce matin, on le fait depuis 20 ans. Donc effectivement, aujourd'hui, on peut dire que quand on vient nous voir, on vient effectivement avec un stock de 200 logements, on repart d'incité avec un stock de 150 logements. Parce qu'effectivement, on est venu retravailler la programmation sur différentes opérations.
Est-ce que, in fine, dans la sortie, ça ne donne pas une valeur de l'actif finalement ou du logement, etc., qui est beaucoup trop cher et peu abordable?
Alors,
parce que comment vous faites pour endiguer ce que vit Bordeaux, effectivement? Alors effectivement, avec le boom de la LGV, je veux bien, mais ça a été un peu le mercato quand même sur le foncier bordelais. Et c'est vrai que le maire Urmic, qui est arrivé aux affaires, a un peu stoppé tout ça, toute cette folie, quelque part. Il revient à un raisonnement un peu plus maîtrisé, même si effectivement c'est compliqué aujourd'hui pour des projets de développement urbain à Bordeaux, clairement.
Quand vous viendrez à Bordeaux, vous verrez, une cité n'a pas bonne presse. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand Bordeaux nous a confié pour partie ces opérations d'aménagement de renouvellement urbain de centre-ville, Bordeaux nous a confié également un certain nombre de prérogatives de puissance publique, notamment le droit de préemption urbain dont on parlait ce matin. Et quand on exerce effectivement ce droit de préemption urbain à Bordeaux, une cité, régulièrement...
Que vous exercez très bien, Benoît.
Qu'on exerce très bien.
J'ai entendu un peu parler.
Voilà, avec souvent un regard aiguisé, et il nous arrive assez régulièrement de contester les prix. Voilà. Et c'est un vrai combat. Je ne dis pas qu'on est systématiquement en situation de combat sur Bordeaux, mais sur la question des prix, c'est essentiel. Un bilan promoteur, quel que soit d'ailleurs promoteur, un particulier, etc., le foncier reste la base. Donc si on n'a pas une maîtrise du foncier, si on n'a pas une maîtrise effectivement sur cet échelon de départ dans la chaîne de production des valeurs de l'immobilier, j'allais dire, on perd tout de suite. Donc notre combat, nous, permanent...
Donc cette arme, entre guillemets, juridique, hein, si je peux me permettre, cet outil, elle vous permet finalement de maîtriser.
Alors,
parce que vous partez du principe que vous devez maîtriser le foncier.
Pas tout. Nous, on vise plusieurs objectifs.
Pourquoi pas, je suis pas tout à fait opposé à ça.
Hein, alors, on n'a pas les moyens. Aujourd'hui, l'opération qu'on a sur Bordeaux, c'est 340 hectares.
Okay.
C'est 2000 ventes par an. Aujourd'hui, les prix de vente sur Bordeaux, c'est 4000 euros le mètre carré, un immeuble avant travaux. Donc on a des immeubles aujourd'hui qui sortent à 6-7 000 euros le mètre carré.
Les gens arrivent à se loger.
Non.
Avec des...
Non. Non, bien sûr que non.
Mais c'est des prix parisiens,
non,
ça.
Bien sûr, ce sont des prix parisiens. Aujourd'hui, une opération, quand on rajoute 2 000-2 500 euros de travaux au mètre carré, parce que dans l'ancien, ça a été aussi évoqué ce matin, dans l'ancien, les coûts de travaux sont importants. Donc on arrive à 2 000-2 500, on a des opérations qui sortent à 6 000-7 000 euros.
Les classes moyennes, est-ce qu'elles ont fui Bordeaux ?
Oh, certaines, oui, bien sûr. Alors, elles ont fui le centre-ville.
Donc la gentrification, c'est un phénomène dont Bordeaux peut être aussi l'archétype, comme Lyon. Hein. Je prends Lyon, hein. Je prends Paris, je prends Strasbourg, voilà.
Oui, je pense, bien sûr. Toutes les métropoles, toutes les cœurs de métropoles.
Mais est-ce que la puissance publique, Benoît, a la possibilité de maîtriser ? Ça vaut le coup de se poser la question.
Elle a, la
municipalité ne peut pas tout faire.
Elle a aujourd'hui la possibilité de... Elle peut temporiser.
D'atténuer.
Elle peut temporiser, elle peut atténuer. Quand on, dans les objectifs qui nous sont fixés, notamment sur la production de logements locatifs sociaux, il faut savoir, aujourd'hui, un bailleur social, quand il fait une opération sur le centre-ville de Bordeaux, il achète à 400 euros. Nous, quand on achète une opération au départ, avant travaux, on est à 4000. Donc ce déficit entre 400 et 4000, c'est... Qui va le payer ?
C'est sans appel.
C'est la collectivité.
Ben oui, bien sûr.
C'est la collectivité.
Bien
donc, effectivement, produire du logement locatif social aujourd'hui dans l'hypercentre-ville de Bordeaux, c'est faramineux. Et pourtant, on continue de le faire. Et c'est essentiel.
Que vous puissiez continuer à le faire, ça me paraît, et d'ailleurs, je poserai la question au maire de Bordeaux, bien évidemment, ça me paraît juste incroyable. Parce qu'effectivement, c'est... Truc. Mais en même temps, vous avez raison. Il faut que vous injectiez dans le centre de Bordeaux des classes moyennes.
Bien sûr.
Pouvait pas fonctionner comme
bien
ça.
Sûr.
Ou alors on a des centres-villes qui finalement sont totalement dépeuplés où il n'y a que des bureaux et que des commerces.
Ouais. C'est pas possible. Il faut les classes moyennes, il faut des familles. C'est pour ça qu'aussi on travaille sur la dédensification des logements. Il faut effectivement produire du type 4, du type 5, faire venir ces familles dans le centre-ville de Bordeaux. Okay. La même chose sur les commerces. Aujourd'hui, depuis 20 ans, on travaille sur les pieds d'immeuble pour faire venir ou maintenir des commerces de proximité. C'est un travail qui va s'amplifier aujourd'hui avec la nouvelle municipalité. On a procédé à une augmentation de capital pour permettre effectivement de maîtriser encore plus les pieds d'immeubles. Aujourd'hui, on en maîtrise à peu près 12 000 mètres carrés. Et 12 000 mètres carrés, c'est quoi ? C'est effectivement maintenir une herboristerie,
Ce que vous soutenez,
bien sûr.
Ouais.
Tout le commerce de proximité.
Ouais, vous soutenez.
ESS, commerce de proximité et artisans, qui est un enjeu aussi.
Donc pour vous, hein, l'économie circulaire, c'est pas un concept. Hein.
Non.
C'est pratique.
Non,
hein.
La ville du quart d'heure, etc. Tout ça, on l'applique depuis 20 ans.
Dernière question, Benoît. Lorsque... On voit Bordeaux un peu comme dans le schéma qui s'est passé à Lyon, quelque part, avec ce qu'on pourrait appeler, alors je ne sais pas si ça se dit chez vous, première couronne, deuxième couronne.
Non, ça s'est dit, ça
d'accord.
Se dit plus, c'est
bon,
plus,
ça,
c'est plus
voilà.
Correct.
Est-ce que, comment on intègre donc, à l'échelle de la métropole le fait, concrètement, est-ce que dans votre vision du monde, parce que Bordeaux gagne des habitants, Bordeaux est destination préférée avec Toulouse, même si le maire de Toulouse hurle à la mort qu'il lui faut une LGV et que Bordeaux là, c'est pas normal, c'est pas juste.
Mm-hmm.
Il a raison, hein, quelque part. Ce serait quand même bien d'avoir une LGV à Toulouse. L'étalement urbain forcément à un moment donné ça va se faire, ou vous pensez que vous avez les moyens de loger tous les Bordelais et les Bordelaises dans son périmètre en reconstruisant la ville sur elle-même, en la transformant, en réemployant les bureaux, vous savez, les friches, aujourd'hui dans lesquelles, parfois, avec les nouveaux usages du travail, fait qu'on peut peut-être reconvertir, peut-être la mixité de l'immeuble. Comment voyez les choses?
Oui, il y a un travail de couture à faire sur Bordeaux, effectivement, sur la réversibilité des immeubles.
Okay. Après, est-ce que vous allez vous étaler ou pas?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le débat. L'étalement urbain n'est plus le débat. Par contre, je pense que le débat porte sur l'équilibre aujourd'hui des villes moyennes dans le périmètre métropolitain. Et comment, effectivement, des villes, je pense à des villes comme Libourne, des villes comme La Réole, etc., arrivent à capter des populations. Alors, c'est les ménages, mais c'est l'économie, c'est l'enseignement, c'est la culture, etc. Faire en sorte que ces cœurs de ville, et c'est un enjeu important, l'État s'en est saisi bien évidemment, c'est un enjeu important pour venir rééquilibrer ces territoires. Et moi je crois beaucoup à ce phénomène effectivement de venir restructurer, les Allemands parlaient du modèle de Kristeller, de restructurer un petit peu ce modèle métropolitain. L'étalement, il faut arrêter. Aujourd'hui, effectivement, quand on travaille sur des villes moyennes, on va travailler sur
ces cœurs
de ville.
Et même si on accueille des nouvelles populations, qu'on a une croissance démographique importante, on peut maîtriser l'étalement urbain pour pouvoir loger tout le monde.
Je pense qu'on ne va pas avoir le choix. Déjà, sur la question de l'artificialisation,
c'est clair. Alors, si on n'a pas le choix, d'accord. Donc, verticalité.
C'est un sujet.
Ok.
C'est un sujet. C'est un vrai sujet. Et on voit effectivement l'acceptabilité de l'Atlantique aujourd'hui sur Bordeaux, qui est complexe.
Ouais. Oui. Bah complexe. Oui. Mais oui. Mais c'est le même sujet qui touche Lyon, c'est le même sujet qui touche Paris avec les tours, etc.
Ouais.
Okay. Parce qu'à un moment donné, vous êtes d'accord que vous ne pouvez pas dire zéro artificialisation, net, et dire on va loger plus d'habitants parce que chaque année on en gagne.
Mais vous avez raison, il y a un paradoxe.
À un moment donné, il faudra afficher la gueule. Ou alors, donc les très riches pourront acheter, etc. Parce que bien évidemment, absence de logement ou absence d'alternative, augmentation des prix, c'est mécanique.
Oui, ou alors, effectivement...
S'il n'y a pas suffisamment de logements neufs proposés, qu'il n'y a pas suffisamment d'offres de logements sociaux ou de logements intermédiaires, je précise, parce qu'il y a une classe sociale dont on ne parle jamais, justement. C'est ceux qui bénéficient du logement intermédiaire. Pas assez riches pour aller dans le parc privé, trop pauvres ou trop riches pour aller dans le parc social.
Ouais.
Et c'est une grosse partie de notre population. Mmh. Effectivement, c'est un sujet. Je pense que la verticalité... est-ce que vous pensez aujourd'hui que la verticalité, on peut en parler de façon dépassionnée? On n'est pas obligé de dire oui, mais attendez, vous rendez compte les hauteurs, etc. Enfin, non.
Alors, je suis mal placé parce que je gère aujourd'hui deux immeubles de grande hauteur sur un quartier populaire, le quartier du Grand Parc. Et effectivement, quand les gens me parlent de ces immeubles, ils me parlent d'un village. On a 100 logements. On a une tour sans logement. Ils me parlent d'un village.
Intéressant.
C'est des immeubles construits dans les années 60.
Ouais,
et on ne se pose même pas la question de l'acceptabilité, parce qu'ils sont inscrits dans le paysage.
Bah oui.
Ils sont là, le parc du Grand Parc est là. C'est très peu dense, in fine, extrêmement peu dense. Et les gens vivent très bien.
Il n'y a pas de souci.
Il n'y a aucun souci. Et on parle de village.
Voilà, l'immeuble n'est pas criminogène par nature, comme certains banlieues ou des immeubles, etc. Il a été pensé dans le truc. Non, mais... De toute façon, il faudra bien trouver des alternatives. Vous savez, Toulouse qui gagne 16 000 habitants par an se posait exactement les mêmes questions.
Et Lyon,
c'est vraiment compliqué. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un débat qu'on peut mener à chaque fois, d'ailleurs, puisque je vais venir bientôt vous voir. Et je me permettrai bien évidemment de vous inviter, Benoît.
Avec grand plaisir.
Merci en tout cas d'être passé par le plateau de Radio Immo. Je rappelle, Benoît Ganda, vous êtes le patron, directeur général de incité-bordeaux.fr. C'est comme ça qu'on est, sur le site internet. Bordeaux.fr. Allez-y, parce qu'on peut aller sur votre site pour voir tout ce que vous faites. C'est extrêmement intéressant. En tout cas, ça vaut le coup de débattre. Même si on n'est pas d'accord, la vitalité d'une bonne démocratie, c'est de pouvoir échanger nos points de vue. Merci, Benoît.
Merci à vous.
Le speed dating de l'immobilier, organisé par Arkéa Banque, entreprise et institutionnelle, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.